risque qui est très important pour le continent africain, c'est le risque politique et social. Donc souvent, l'inflation, c'est un vecteur de frustration sociale. Le risque politique était déjà à un niveau très élevé après la pandémie. Donc si on vient rajouter à ça un choc inflationniste qui affecte directement le panier de consommation des ménages, ce risque politique augmente.
Bonjour à tous.
Bonjour Ingrid.
Bonjour.
Bonjour Ingrid.
Bienvenue dans Trade Talk, le podcast pensé pour aider votre entreprise à se développer sereinement. Au fil des épisodes, nous abordons ensemble les différents visages de l'activité économique et pour ça, nous croisons des analyses d'experts et des regards de dirigeants d'entreprises. Un vaste territoire aux disparités multiples, l'Afrique défie les généralisations. Mal connu, mal perçu, le continent présente pourtant de nombreuses opportunités pour les entreprises, à condition d'être bien au fait des risques endogènes qui y sont présents, ainsi que de ceux induits par l'actualité récente. Conséquences de la crise sanitaire et du conflit armé en Ukraine, hausse des prix des matières premières, secteurs porteurs et conseils pour les entreprises implantées sur le territoire, nous partons à la découverte de ces enjeux avec trois experts de chez COFAS, Cécile Paillard, directrice générale de la région Méditerranée et Afrique, Dominique Fruchter et Aroni Chaudhuri, tous deux économistes. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Alors l'Afrique est un vaste continent et ce n'est pas évident de toujours bien saisir la réalité qu'il peut y avoir derrière, qu'il peut y avoir sur place, sur le terrain. Dominique, est-ce que vous pourriez néanmoins nous faire un état des lieux de la situation africaine, notamment par rapport à ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire ?
L'impact sanitaire du Covid a été relativement limité sur le continent et il y a plusieurs causes en fait à cette atteinte relativement limitée. D'une part, il y a le fait que la population est relativement jeune. Et il est su maintenant que la jeunesse est une protection contre l'atteinte par le Covid et aussi contre la sévérité de la maladie. Il y a également le fait que l'habitat rural est dominant, notamment en Afrique subsaharienne. Il y a peu de mégapoles sur le continent, mis à part peut-être le Caire et Lagos. Le fait également que lorsqu'il y a eu tout de suite, là, en 2020, l'annonce de la pandémie, eh bien, les frontières ont été fermées très rapidement, les frontières à la fois par rapport au reste du monde et aussi entre pays africains. On peut également mentionner le fait que des pays africains avaient déjà été confrontés à des épidémies, je pense au sida, notamment en Afrique australe, et à l'Ebola en Afrique centrale et en Afrique occidentale, sans compter aussi les atteintes de tuberculose.
Donc c'est un premier bilan sur le plan sanitaire à proprement parler. Maintenant, les répercussions de cette crise, elles ont aussi été économiques, évidemment. Aroni, est-ce que vous pourriez les évoquer ?
Oui, alors on va avoir trois types d'impacts assez significatifs aux sorties de la pandémie en termes économiques. Avant tout, c'est un choc domestique qui affecte à la fois l'offre et la demande, puisque les restrictions sur la mobilité et les mesures prises pour contrer la pandémie ont été un arrêt brutal de l'activité. Donc la fermeture des commerces, la fermeture des usines, les restrictions de mobilité sur le déplacement des personnes, qui est particulièrement important d'ailleurs en Afrique quand on considère la part de l'agriculture. Ensuite, on a un deuxième choc qui va être un choc de demande externe. Il y a eu des récessions et des ralentissements dans les marchés clés pour les exportations d'Afrique. Il y a eu une diminution du tourisme sur lequel même beaucoup de pays africains sont assez dépendants, une désorganisation du transport, et aussi une chute du cours des matières premières, notamment dans la première phase de la pandémie, dont beaucoup de pays africains sont des exportateurs nets. Et puis, un impact qui est aussi très significatif, c'est l'augmentation de l'endettement sur le continent africain. Alors, beaucoup de pays africains ont été aidés par les organisations internationales telles que le FMI, la Banque africaine de développement ou la Banque mondiale, mais néanmoins, on remarque quand même que le niveau d'endettement a fortement augmenté à cause de la pandémie. Et puis, il y a plusieurs pays qui étaient déjà dans une situation d'insoutenabilité de la dette, qui ont vu leur situation se détériorer. Et puis, on peut prendre un pays comme la Zambie qui a carrément fait défaut en fin 2020.
Cécile, est-ce que vous avez constaté une augmentation des risques de défaut d'entreprise à la suite de la crise sanitaire ?
Eh bien, écoutez, non, nous n'avons pas constaté d'augmentation des défauts dans le cadre de nos opérations. Je dirais même que nous avons connu des ratios de sinistralité qui n'ont pas dépassé les 25% en 2021, quand en général, ils se maintiennent dans un couloir de 45 à 55%. Maintenant, je partage bien évidemment tous les constats faits par les économistes. C'est vrai que la réalité africaine n'est pas une réalité unique. C'est une réalité extrêmement diversifiée, tout comme le sont les différentes économies qu'on peut rencontrer sur le continent, puisqu'il y a des réalités d'économies diversifiées, comme le Maroc et l'Afrique du Sud, des économies de transition, comme le Cameroun et le Sénégal, ou encore des réalités de pays exportateurs de pétrole, comme l'Algérie. D'autre part, c'est vrai que nous avons une approche de construction durable de notre activité sur le continent africain. Et pour ce qui concerne en fait l'activité risque de crédit, je dois dire que nos portefeuilles se sont montrés extrêmement résilients, car probablement plus exposés à des activités considérées comme essentielles, qui elles n'ont pas subi le coup d'arrêt qui a été imposé, on dira, à l'ensemble du monde et donc du continent.
Est-ce qu'il y a eu sur place certains pays qui ont pu mettre en place des plans de soutien justement pour éviter cette sinistralité ?
Alors les plans de soutien des gouvernements, on les a surtout trouvés en Europe, dans les pays les plus développés, mais sur le côté action des gouvernements, je pense qu'il y a eu une grande solidarité et beaucoup d'actions communes pour notamment s'assurer de la sécurité des populations, pour s'assurer aussi de l'acheminement des vaccins, puisqu'il n'y a que 1% des vaccins qui sont produits sur le continent. Donc pas tellement de plans de soutien financier, mais quand même des actions concertées.
Avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'économie africaine connaît encore un nouveau choc. Donc à première vue, la dépendance commerciale globale des États africains par rapport à ces deux pays, eh bien, elle semble plutôt faible. On imagine néanmoins qu'il y aura quand même des conséquences. Est-ce qu'on peut déjà avoir une idée, une estimation des répercussions de ce conflit sur les pays africains, Aroni ?
Effectivement, comme vous venez de le dire, la dépendance directe du continent africain aux deux belligérants est quand même extrêmement faible. C'est-à-dire que la Russie et l'Ukraine combinées, c'est moins de 4% des importations de l'Afrique et c'est moins de 1% des exportations. Alors, la Russie reste quand même importante pour certains pays, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en blé, en matières premières agricoles et aussi en armes. L'Afrique est principalement tournée vers l'Europe, vers les États-Unis, vers la Chine, vers l'Inde, vers les Émirats arabes unis. Et ces pays combinés constituent environ 65% des importations totales et exportations totales.
Dominique, est-ce que vous avez un éclairage à apporter également ?
Oui, effectivement, si les liens commerciaux directs entre le continent africain et Russie, Ukraine sont assez peu développés, même assez faibles, il y a quand même un poids significatif de l'Ukraine et de la Russie dans les importations de plusieurs produits agricoles par l'Afrique, notamment pour ce qui concerne le blé, l'orge, le maïs et l'huile de tournesol, ainsi que les engrais. Je pense qu'il faut mentionner l'Afrique du Nord, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Ghana et le Bénin. Alors cette dépendance assez forte sur ces produits est liée en fait aux habitudes de consommation et également au fait que les populations sont relativement plus urbanisées que dans le reste du continent africain. Vous avez une contagion également de la hausse des prix des céréales et des engrais sur les produits de substitution. Il y a également le fait que l'alimentation pour le bétail s'est renchérie et que face à ce renchérissement, les éleveurs sont amenés à réduire leurs troupeaux, en amener plus à l'abattoir, et donc cela vient impacter, réduire les prix de la viande. Le fait également que le fret international soit plus cher, parce que l'énergie aussi, comme les produits agricoles, a vu son cours s'envoler, et aussi le fait que l'énergie, évidemment, coûtant plus cher, ça renchérit le transport domestique. Et le transport domestique est essentiel, bien souvent, pour les campagnes, pour les paysans africains, pour faire parvenir leurs produits sur les marchés dans les villes. Donc, finalement, un impact direct, effectivement, assez peu important, sauf exception, mais un impact indirect beaucoup plus fort via plein de canaux que je viens d'expliciter.
Alors Cécile, vous disiez qu'il y avait eu très peu de défauts malgré le Covid. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, avec ce qui vient d'être décrit, il pourrait y avoir une augmentation des sinistres d'entreprise ?
Je vais faire une réponse en deux temps, si vous me le permettez, parce que je pense qu'il y aura deux temps. La première chose, comme l'ont rappelé les économistes, je pense que l'exposition du continent africain à la Russie et à l'Ukraine est mesurée. Donc ce qu'on voit dès à présent, ce sont quelques sinistres isolés, en prise directe avec le conflit, où on voit que des contreparties russes et ukrainiennes ne sont plus en mesure d'honorer leurs engagements du fait d'un côté des sanctions imposées pour l'un et de l'état de guerre pour l'autre. Cela dit, nous n'avons pas encore constaté de fréquence de détérioration profonde et durable dans la fiabilité des échanges commerciaux entre acteurs économiques. Mais il est évident, et c'est là le second temps, que les répercussions de ce conflit pourront toucher plus ou moins fortement certains pays du continent africain et venir perturber des grands équilibres économiques et sociaux qui parfois peuvent être encore fragiles.
Aroni, à plus long terme, est-ce qu'on peut essayer de projeter un peu les risques que vont faire naître l'inflation, plus spécifiquement pour le continent africain ?
Si jamais ces tensions inflationnistes se prolongent et sont non contenues, elles vont venir freiner la croissance. Avant tout, c'est des tensions inflationnistes qui sont sur des produits alimentaires et énergétiques, donc des produits nécessaires pour les ménages. Donc forcément, l'augmentation de ces prix va baisser en fait la consommation des ménages, qui auront moins de moyens à consacrer au reste de leur consommation. Les banques centrales, pour essayer de contenir cette inflation, vont probablement devoir augmenter leurs taux directeurs. Et d'ailleurs, ça a déjà été le cas récemment en Égypte, en Afrique du Sud ou en Mozambique. Donc, en haussant ces taux directeurs, on va limiter l'accès au crédit, ce qui va affecter l'investissement. À un niveau plus global, on va avoir un ralentissement au niveau mondial à cause du conflit. Ce ralentissement va constituer en fait un nouveau choc de demande externe puisque l'Afrique est quand même dépendante de ses marchés d'exportation. Ensuite, un risque qui est très important pour le continent africain, c'est le risque politique et social. Donc souvent, l'inflation, c'est un vecteur de frustration sociale. Le risque politique était déjà à un niveau très élevé après la pandémie, à cause de la frustration accumulée par les restrictions de mobilité et les différentes mesures qui ont été prises. Donc si on vient rajouter à ça un choc inflationniste qui affecte directement le panier de consommation des ménages, ce risque politique augmente. Et on en voit déjà, encore une fois, des matérialisations.
Alors dans cette première partie d'émission, on a beaucoup parlé des risques qui pesaient sur l'Afrique, du poids des crises actuelles. Peut-on maintenant parler des atouts de l'Afrique qui pourraient évidemment intéresser aujourd'hui les entreprises ?
Oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. Dans les années passées, le continent a vu une diminution très nette de la pauvreté, ainsi que des progrès importants en termes d'éducation et d'inclusion des femmes dans les économies. Alors évidemment, avec la crise du Covid et puis la crise actuelle avec ces tensions inflationnistes, il y a un coup d'arrêt qui a été donné à ces progrès. Peut-être même un léger recul, hein. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il reste que le continent a une population très importante et une démographie très dynamique. Et donc, c'est évidemment un atout majeur pour les économies et ainsi que pour les partenaires commerciaux donc qui sont intéressés par le continent.
Alors, une des autres caractéristiques majeures du continent africain, c'est le poids de l'énergie, le poids des matières premières. Il y a de nombreux pays qui sont producteurs. Est-ce que finalement, cette hausse des prix pourrait créer un effet d'aubaine pour certains États africains ?
Effectivement, il y a des conséquences positives du conflit russo-ukrainien, et notamment via les hydrocarbures. Alors, il y a quelques pays seulement sur le continent qui sont des exportateurs nets d'énergie. Je peux en citer quelques-uns, comme l'Algérie, la Libye, le Congo, l'Angola, le Tchad, le Niger et le Ghana. Donc, ce sont des pays qui vont être bénéficiaires de la hausse des prix de l'énergie. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que la majorité des pays africains, en fait, sont des importateurs nets. Donc, ceux-là vont souffrir. Il y a un autre segment qui peut également profiter au pays, ce sont les produits agricoles d'exportation, parce que, évidemment, les pays africains importent beaucoup de produits agricoles. On l'a vu ça antérieurement, mais également, ce sont des pays qui en exportent un certain nombre. Le problème, c'est que la plupart de ces produits agricoles dits d'exportation ont vu leur cours n'augmenter que faiblement, pas du tout en proportion de l'augmentation des cours des produits qu'ils ont dû importer. Par exemple, je pense au cacao, à la banane, aux noix de cajou, leurs cours ont faiblement augmenté et ça ne vient pas du tout compenser la facture supplémentaire au titre des importations d'hydrocarbures.
Il y a aussi en Afrique, évidemment, beaucoup de matières premières minérales. Sur ce segment, Aroni, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui ?
Les pays disposant de dotations en ressources minérales sont probablement encore mieux positionnés pour plusieurs raisons. Déjà, il y a eu des augmentations très fortes du cours des métaux et des minéraux à cause du conflit. Et là, on sait notamment le nickel, le palladium et l'aluminium dont les cours ont très très fortement augmenté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des prix des matières premières minérales étaient déjà à des niveaux très élevés avant l'éclatement du conflit, notamment parce qu'il y avait une très forte demande globale et aussi parce qu'il y avait des contraintes sur les chaînes d'approvisionnement. Donc, des pays comme la République démocratique du Congo ou la Zambie ou l'Afrique du Sud qui ont beaucoup de ressources minérales vont effectivement profiter de ces cours élevés. ce qui sera bénéfique pour leur croissance. Et puis, encore plus important peut-être dans le contexte actuel, c'est que ça peut aussi constituer une sorte de bouclier contre les tensions inflationnistes, dans le sens où les revenus tirés de l'exportation de ces matières premières minérales peuvent ensuite être redistribués dans l'économie sous forme de subventions pour venir contenir des tensions inflationnistes. En revanche, je vais juste rajouter un petit bémol en ce qui concerne l'effet d'aubaine, c'est-à-dire que effectivement, ces opportunités peuvent créer une dynamique de croissance, mais il faut aussi faire attention à un certain nombre de risques qui y sont associés. C'est-à-dire que si jamais on oriente son économie vers des industries extractives en particulier, un, on augmente la vulnérabilité aux chocs externes, c'est ce qu'on a vu pendant la pandémie. Si la demande externe pour ces produits chute, l'économie est très fortement affectée. Ça freine aussi la diversification économique parce qu'on est en train d'orienter les investissements et son économie vers un secteur en particulier et du coup, on délaisse un peu les autres secteurs. On peut aussi avoir des problèmes liés à la sécurité, donc des risques de contrebande. On peut aussi avoir de la corruption en termes de la redistribution des revenus. Donc en fait, en somme, l'effet d'aubaine doit être accompagné d'une gouvernance qui permet de redistribuer cette richesse dans des secteurs clés comme les infrastructures, l'éducation ou la santé qui permet de développer l'économie.
Dominique et Aroni, vous êtes tous les deux des spécialistes de l'Afrique. Quels sont, d'après vous, les secteurs les plus porteurs sur le continent en ce moment ?
Au-delà des investissements supplémentaires qui peuvent être générés par la hausse des cours des minerais et des hydrocarbures, il y a également d'autres secteurs qui peuvent être également demandeurs d'investissement sur le continent. Et là, je pense qu'on peut citer les infrastructures de transport. Bien souvent, d'ailleurs, ces infrastructures de transport sont liées à l'exploitation, à l'extraction minière, parce qu'il faut bien évidemment faire que les minerais aillent depuis l'intérieur des pays jusqu'aux côtes. Il y a également le textile et la confection qui peut être également un secteur de développement parce que certains pays vont chercher à transformer le coton produit sur place et le coton est un produit important pour les économies notamment en Afrique occidentale. Il y a également l'agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire, parce qu'évidemment, il faut transformer, si possible, les produits agricoles produits sur place. Et enfin, il y a les engrais et les plastiques, dont le continent est largement déficitaire. Et globalement, le continent est déficitaire en engrais et en polymères et en plastique. Et pourtant, il y a des hydrocarbures. Donc, il serait bon qu'il y ait une exploitation, une transformation locale de ces hydrocarbures.
Aroni, quels sont les secteurs porteurs ?
Alors, je vais juste rajouter un secteur qui bénéficiera et bénéficie déjà aussi d'investissements publics, c'est celui des énergies renouvelables. Donc, c'est un secteur qui est encore assez petit en Afrique, mais il y a quand même des gros potentiels de développement dans l'hydroélectricité et dans le solaire.
Alors, quels conseils donneriez-vous aux entreprises implantées localement ou qui ont une activité commerciale sur ce continent si vous vous placez du point de vue d'un chef d'entreprise ?
La première chose, je pense qu'il y a une petite période un peu compliquée où il convient de s'assurer de la conformité. C'est le contexte actuel. Je pense qu'il est bon de quand même rechercher à éviter l'exposition à d'éventuelles sanctions. Dans le deuxième temps, je chercherai à m'assurer de la solidité financière à l'instant T et aussi projeté de l'entreprise. Donc sûrement des choses intéressantes à faire en termes de financement. Peut-être qu'il faut retravailler son financement, gagner du temps. Je pense qu'il faut suivre sa position cash comme le lait sur le feu et contrôler la robustesse de son bilan. Nous sommes en fait de fervents croyants de la gestion du risque. Donc je dirais qu'il faut renforcer sa gestion du risque en interne ou et en partenariat avec l'assureur, resserrer la communication, obtenir de l'information et sécuriser parfois des capacités de recouvrement. Ce qui peut arriver, c'est parfois d'être coincé entre des contrats à prix définis avec les clients et des fournisseurs qui montent les prix. Bon, il faut être bien conscient et éviter de se retrouver dans ces situations ou, si c'est déjà le cas, travailler sur ces sujets. Donc, reconsidérer des renégociations ou potentiellement de hausse de prix. Après, il y aura un sujet d'approvisionnement. Donc, la gestion des stocks, je pense, sera un point essentiel de façon à pouvoir garantir l'activité. Et puis, diversifier les portefeuilles clients et fournisseurs, diminuer la concentration ou la dépendance à une contrepartie en particulier.
Merci à tous nos invités pour leurs conseils qui, nous l'espérons, vous aideront à mieux appréhender le marché africain à l'aune des enjeux actuels. C'était Ingrid Labuzan, journaliste pour COFAS. À bientôt pour un prochain podcast. En attendant, retrouvez les analyses de risque pays et secteurs de COFAS sur COFAS.com.